Bonjour à toutes et à tous. Ceci est une version enregistrée à la maison, quelques jours après la véritable intervention en public d'une communication que j'ai effectuée au colloque organisé par l'Université de Genève, Violence de genre et pratiques de care au Moyen-Âge. Et j'y ai présenté une communication qui s'intitule « Le faux secret du secret des femmes, de la prétendue violence féminine à la véritable violence masculine du texte ». Alors, mon intervention se fera en quatre temps. D'abord, nous plongerons in medias res dans le texte que j'ai choisi de vous faire découvrir en voyant comment ce texte-là semble particulièrement bien répondre au thème proposé du colloque dans lequel s'insère ma communication. Ensuite, nous reviendrons un petit peu sur des notions de contexte de ce texte, puis nous observerons un petit peu comment le texte semble annoncer un classement des pratiques de soins et des violences de genre. Et enfin, dans une quatrième partie qui sera la plus importante, nous regarderons de plus près le texte lui-même en nous interrogeant sur la véritable violence de ce texte. En ouverture, j'ai choisi de vous citer un passage se trouve d'un point de vue matériel les premières lignes que va lire le lecteur du Moyen-Âge en ouvrant le livre intitulé en latin « De secretis mulierum », c'est-à-dire « Le secret des femmes ». Donc, comme je l'ai dit, je reviendrai un petit peu après sur le contexte. Les seuls éléments d'information que je vous donne pour l'instant pour que vous puissiez bien comprendre la position de ce lecteur, c'est que ce que je vais vous lire, ce sont les premières lignes du prologue d'un des commentaires du traité intitulé « De secretis mulierum, secret des femmes ». Or, dans certains manuscrits, le prologue du commentaire était écrit sur le manuscrit avant le prologue du texte lui-même, ce qui fait que ce que je vais vous lire, ce sont les premières lignes que lisait le lecteur en ouvrant le livre. Lors de ma version en public, j'avais donc pu montrer un diaporama où on voyait à chaque fois s'afficher le texte latin original avec en regard ma traduction française. Donc j'avais choisi à chaque fois de lire uniquement ma traduction française, ce que je vais faire là encore pour plus de commodité. Et puis, si certaines personnes veulent se reporter à la version latine, eh bien, de toute façon, mon diaporama sera en ligne visible. Donc voici ces premières lignes. Le sujet de ce livre est de forme instable, mais se concentre sur la nature des secrets des femmes pour que, quand elles sont malades, nous puissions leur donner des remèdes et pour, quand elles se confessent, savoir leur donner les pénitences adaptées au délit. Or, notre colloque s'intéresse aux violences de genre et pratiques de care et précisément, dans les deux objectifs annoncés des premières lignes de ce prologue, on nous dit que le traité a été écrit pour deux objectifs. D'une part, pour quand elle se confesse savoir donner les pénitences adaptées au délit, donc les pénitences peuvent être considérées comme une forme de violence, et pour que quand elles sont malades, nous puissions leur donner des remèdes, et les remèdes sont bien des pratiques de soins. Par ailleurs, on est bien dans une situation genrée, puisque la personne qui va donner les pénitences et donner les remèdes est un « nous » masculin, donc dans le texte latin, il n'y a pas de pronom « nous », mais il y a le verbe « possimus », au subjonctif, qui est donc avec la terminaison de la première personne du pluriel. Et alors il n'y a pas non plus de pronom « elle », mais il y a le pronom « ipsis », donc qui est un pronom de reprise, hein, elle-même, eux-mêmes, soi-même, qui reprend en l'occurrence mulierum, qui désignait bien les femmes. Je saute quelques lignes dans ce prologue et j'arrive au moment où l'auteur du commentaire explique la cause de l'écriture de ce traité. Et il dit ceci: La cause motrice, c'est un certain prêtre qui a demandé à Maître Albert qu'il lui écrive un livre sur les secrets des femmes. Et cela pour cette raison que les femmes sont venimeuses en période menstruelle, si bien qu'elles intoxiquent les animaux par leur regard, infectent les enfants dans leur berceau, tachent un miroir bien poli et rendent celui qui pratique le coït avec elles soit lépreux, soit cancéreux. Donc là aussi, je vois qu'on a des éléments qui correspondent tout à fait au sujet du colloque, puisqu'on nous demandait de dépasser la polarisation réelle, mais pas nécessairement automatique, entre masculin agresseur et féminin victime, ou encore entre féminin soignant et masculin soigné. Et ici, il s'agit bien des hommes qui sont victimes et des femmes qui sont autrices de violence, hein, puisqu'on parlait de celui qui pratique le coït avec elle sera rendu lépreux ou cancéreux. Et puis il s'agit bien, comme on l'avait vu dans le premier passage, de masculin soignant et de féminin soigné, puisque l'auteur disait pour que nous puissions leur donner des remèdes. On nous invitait aussi pour ce colloque à prêter attention à d'autres axes de l'inégalité, les rapports d'âge, de classe sociale, d'apparence physique ou de nature, humain, être surnaturel, ou d'apparence ethnique ou religieuse. Alors l'apparence ethnique est le seul point finalement qui n'apparaît pas dans mon traité. Les différences d'apparence physique et de nature apparaissent puisqu'on accuse les femmes d'intoxiquer les animaux par le regard. Les rapports d'âge apparaissent doublement, puisque dans le passage que je viens de citer, on les accuse d'infecter les enfants dans leur berceau. Donc ici, les enfants, le rapport d'âge est invoqué pour les victimes de violences. Et puis un petit peu plus loin, alors dans le corps du texte lui-même, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, on évoque aussi le rapport d'âge du côté des autrices de violences, puisque on indique que ces femmes qui peuvent intoxiquer les enfants au berceau sont plus souvent des vieilles femmes. Et la classe sociale est également invoquée dans ce passage, puisqu'on dit que non seulement ce sont souvent des vieilles femmes, mais surtout des vieilles femmes pauvres, mais là aussi, j'y reviendrai. Alors après cette ouverture qui nous a plongé in medias res et qui a sans doute suscité beaucoup d'interrogations, de questionnements, d'incompréhensions de votre part, je vais maintenant enfin poser le contexte pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est que ce secret des femmes. Alors, ce n'est en fait pas vraiment un texte, mais comme très souvent d'ailleurs au Moyen-Âge, hein, une nébuleuse de plusieurs textes avec des variantes, des traductions, des interprétations. Au départ, on a une version latine qui s'intitule en latin, selon les manuscrits, soit Secreta Mulierum, soit De Secretis Mulierum. Dans tous les cas, ça se traduit en français par Les secrets des femmes. Ce texte-là, ce traité a été écrit. Alors, les fourchettes les plus précises qu'aient pu trouver les spécialistes sont entre 1277 et 1320, mais disons que on penche plus, mais ça reste une hypothèse, pour la fin du XIIIe siècle pour l'écriture du texte. L'auteur est anonyme, même si dans beaucoup de manuscrits, le traité est attribué à Albert le Grand, mais ça, cela a été démontré que c'est faux. En revanche, c'est sans doute un disciple d'Albert le Grand. Il existe, alors on a trouvé pour l'instant 54 versions différentes de ce texte latin. Alors, ce ne sont pas des différences énormes, mais suffisantes pour qu'on puisse parler de versions différentes. Et ces différentes versions se trouvent dans plus de 100 manuscrits latins, ce qui est absolument énorme. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, un texte qui se retrouve déjà dans une dizaine de manuscrits est considéré comme un texte à grand succès, comme on dirait aujourd'hui un best-seller. Donc 100 manuscrits latins, vous imaginez le succès incroyable de ce texte. Alors ce succès se signale aussi donc, par des commentaires et d'autres versions. Donc les commentaires, eh bien, sur un certain nombre de ces manuscrits latins que j'évoquais, le texte n'est pas seul, mais il est accompagné d'un commentaire, ou autrement dit d'une glose. Donc ça, c'est quelque chose qui était très fréquent au Moyen-Âge pour des textes que l'on considérait comme d'une certaine importance, la Bible, certains textes de loi, qui méritaient d'être explicités, parfois aussi parce que ces textes-là étaient utilisés par des professeurs dans des universités. Donc pour notre texte, il est possible qu'il ait été utilisé non pas dans des grandes universités comme celle de Paris ou de Cologne, mais peut-être dans des petites universités plus locales. Donc voilà, on a des hypothèses là-dessus, mais c'est pas, on n'en est pas absolument sûr. Ça peut être une des raisons pour lesquelles ont été écrits des commentaires sur les manuscrits. Alors, ces commentaires latins sont eux-mêmes nombreux. Il y en a deux qui sont les deux plus répandus, qui sont ceux que j'ai choisi d'étudier, que j'intitulerai commentaire A et commentaire B, tout simplement parce que c'est la dénomination que leur donne la seule personne pour l'instant qui les a étudiés, qui est Hélène Rodnit-Lemay, qui en a fait une édition, alors malheureusement une édition anglaise, c'est-à-dire qu'elle a traduit ces deux commentaires en anglais, mais elle n'a pas fourni une édition du texte latin lui-même. Et donc c'est quelque chose qui reste à faire, hein, si certains doctorants sont prêts à chercher des idées de recherche, parce que pour l'instant, si on veut avoir la version latine de ces commentaires, on doit s'appuyer soit sur des éditions, des imprimés du XVIIe siècle, c'est ce que j'ai fait pour ma part, mais qui comportent parfois un certain nombre d'erreurs de copie, soit sur les manuscrits, et donc il existe plusieurs manuscrits répertoriés, mais bon, pour ça, il faut avoir des compétences de paléographie médiévale et beaucoup de temps, et je ne bénéficiais pas de l'un ni de l'autre. Alors voilà, donc le texte latin avec ses 54 versions, les commentaires latins, dont c'est de là les plus répandus, et puis une autre chose qui montre le succès de ce texte, c'est qu'il a été traduit dans de nombreuses langues vernaculaires, donc ce qu'on appelle des langues vernaculaires au Moyen-Âge, c'est les langues autres que le latin, c'est-à-dire les langues qui étaient parlées dans les différents pays. Donc on en a deux versions françaises et il en existe aussi, à ma connaissance, des versions néerlandaises, anglaises, allemandes, toscanes et tchèques, et sans doute d'autres hein, que je n'ai pas pu répertorier. Donc moi je me suis intéressée à deux des versions françaises, la version intitulée « Les secrets des dames » et la version intitulée « Les secrets des femmes », donc la première apparaissant dans 8 manuscrits, l'autre dans 4 manuscrits, plus une variante qui est presque pareille, mais avec des petites différences. Donc ces 5 textes, la version latine, les deux commentaires latins et les deux versions françaises, constituent en réalité le corpus de la thèse que je suis en train de faire, qui porte sur la vision des menstrues au Moyen-Âge, et donc qui s'appuie essentiellement sur ces 5 textes qui forment la nébuleuse Secret des femmes. Donc c'est pourquoi je suis très familiarisée avec ces textes, et c'est pourquoi j'ai choisi donc de les utiliser comme support de la communication d'aujourd'hui. Je m'appuierai assez peu aujourd'hui sur les versions françaises, mais surtout sur la version latine et ses commentaires latins. Alors, quelques points sur les sources de ce texte. Donc là, quand je dis ce texte, je parle de la première version latine, hein, le De Secretis Mulierum. Donc c'est un texte qui se présente comme un ouvrage de gynécologie, mais j'y reviendrai, on verra qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ce texte utilise un certain nombre de sources très variées. Certaines sont explicites, comme des auteurs grecs antiques, Aristote, Hippocrate, Galien, des auteurs arabes, comme Avicenne, Averroès. D'autres sont implicites. On y retrouve à la fois des déclarations et des croyances véhiculées par des textes médicaux ou philosophiques, par des textes chrétiens, mais également par des croyances populaires. Et c'est justement tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il recoupe en fait un certain nombre de sources très différentes qui semblent converger, c'est en quelque sorte un point de cristallisation de croyances diverses qui ont été élaborées dans les textes précédents au Moyen-Âge. En ce qui concerne la réception de ce texte et de ses variantes, j'y reviendrai plus précisément dans la conclusion de cette communication, parce que c'est un texte qui a une importance non seulement en lui-même, mais d'un point de vue historique dans les conséquences qu'il a eues ensuite. Mais déjà, vous voyez, comme je l'ai dit, son grand succès du fait de la quantité à la fois de manuscrits de la version originale et de commentaires, ainsi que d'adaptations en d'autres langues. Alors, si je me replonge donc dans le sujet plus précis du colloque et de ma communication, qui est les pratiques de soins et les violences de genre. Si on reprend le texte que j'ai cité au départ, qui était donc, je le rappelle, le début du prologue de l'un des commentaires, c'était donc une sorte d'annonce programmatique hein, qui nous disait ce que le texte va contenir. Et il y était question précisément de pratiques de soins et de violences de genre, avec un classement très précis. Alors là, j'avais une diapo, mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai à présenter dans la diapo. J'ai fait tout simplement deux tableaux. Auteur, pardon, des pratiques de soins, les hommes. Objet des pratiques de soins, les femmes. Et en ce qui concerne le classement des violences de genre, autrice des violences, les femmes, en particulier les vieilles femmes, en particulier les vieilles femmes pauvres, et les victimes des violences, les hommes, les enfants, les animaux. Donc maintenant que j'ai synthétisé ces différents points, je vais revenir un petit peu sur chacun d'entre eux. Alors en ce qui concerne les auteurs des pratiques de soins, j'ai expliqué tout à l'heure que ces auteurs sont désignés uniquement par la première personne du pluriel exprimée dans le verbe possimus, donc nous. Ce nous, toutefois, n'est pas explicite. On suppose qu'il s'agit des hommes, puisqu'il est exprimé dans la phrase par opposition au pronom ipsis qui reprenait mulierum, c'est-à-dire les femmes. Et on peut supposer que ces hommes sont des clercs, alors d'abord parce que par d'autres informations extérieures, on a pas mal d'hypothèses qui convergent vers l'idée que c'était bien un livre écrit par un clerc et destiné à des clercs. Mais alors il y a aussi l'expression dans le texte lui-même, dare poenitentias, donner des pénitences, qui laisserait entendre que l'auteur et ses lecteurs est un clerc avec charge de confesseur. Et puis également charge de médecin, puisqu'il est question de dare remedia, donner des remèdes. Je nuance toutefois légèrement cette conclusion, puisque le passage dare poenitentias, donner des pénitences, ne figure pas dans tous les manuscrits. Donc je ne sais pas si c'est une interpolation plus tardive ou si c'était dans le texte initial du commentaire. Donc simplement ce que je note, c'est que la possibilité de femme médecin n'est absolument pas envisagée comme autrice des pratiques de soins, alors même qu'à l'époque où ce commentaire a été rédigé, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, il se trouve qu'on a pas mal de témoignages sur des femmes médecins, donc d'une part dans des recensions, notamment à Paris, et d'autre part, bah, à Paris également, on a eu un procès assez retentissant pour pratique illégale de la médecine concernant des femmes, dont une Jacoba Felici qui a une certaine célébrité du fait de son argumentaire très convaincant pour se défendre. Voilà, donc bon, notamment à Paris, mais aussi dans d'autres lieux de l'Europe médiévale, on sait qu'au début du XIVe siècle, des femmes pratiquaient la médecine. Et là, c'est absolument pas envisagé dans notre texte. Alors, les objets des pratiques de soins, dans ce petit passage sur lequel j'ai démarré ma communication, qui est donc une sorte d'annonce programmatique, ce sont bien les femmes. Cependant, si on lit le texte lui-même, on constate que il s'agirait plutôt non pas de remèdes pour les femmes, mais de remèdes pour des hommes qui seraient les victimes collatérales de ces maladies de femmes dont je parlais plus précisément. Donc si on rétablit la réalité du texte, les hommes seraient à la fois auteurs et objets des pratiques de soins dans le De Secretis Mulierum. Le classement des violences de genre. Donc là, les autrices, comme je l'ai dit, ce sont des femmes. Alors pourquoi des femmes? À cause des nombreuses croyances sur le corps féminin dangereux. Donc ça, je vais y revenir plus précisément en détail. Pourquoi plus précisément des vieilles femmes? Alors là, c'était des croyances sur les vieilles femmes qui au départ étaient indépendantes des croyances sur le corps féminin, mais qui vont s'y greffer justement dans ce texte. Ce texte est vraiment un des premiers où on voit cette convergence, et ça, je vais l'expliquer aussi plus loin. Et puis, plus particulièrement, des vieilles femmes pauvres. Alors là, c'est une simple mention en passant qui ne sera pas détaillée dans le texte, qui n'est pas... alors là, pour le coup, notre texte n'est pas le premier à l'évoquer. Albert Legrand évoquait également le fait que les vieilles femmes pauvres, du fait de leur... régime de mauvaise qualité pouvait être enfin avoir un corps plus toxique, enfin que ça pouvait avoir des conséquences plus néfastes quant au à la constitution de leur sang menstruel, mais il ne parlait pas du danger de ces vieilles femmes pauvres, alors que là c'est ce qui est le cas dans notre texte. Et on remarque des femmes plus particulièrement vieilles, plus particulièrement pauvres, que ce sont vraiment les personnes particulièrement vulnérables qui sont dans ce texte accusées des autrices de violence, ce qui n'est pas sans un certain aspect paradoxal. Quant aux victimes des violences, donc si je reprends la petite annonce programmatique qu'on avait, les femmes sont venimeuses en période menstruelle, si bien qu'elles intoxiquent les animaux par le regard, infectent les enfants dans leur berceau, tachent un miroir bien poli, rendent celui qui pratique le coït avec elles soit lépreux, soit cancéreux. Donc si je mets de côté le miroir qui est le seul objet qui ne va pas être une personne à souffrir d'être objet de violence, on a trois catégories des objets de violence. Donc les enfants, en premier les animaux, ensuite les enfants et enfin les hommes. Alors, les hommes, bon, cela s'explique assez facilement puisque, comme le dit le texte, c'est dans le cadre de relations sexuelles, ceux qui pratiquent le coït avec elles. Les enfants, donc ça, ce sera expliqué plus loin dans le texte par leur particulière fragilité, hein, puisque là, c'est par rapport à l'intoxication par le regard. Donc, le texte nous dira que les hommes peuvent en être blessés, mais les enfants peuvent en mourir puisqu'ils ont une constitution plus fragile. Alors, les animaux, c'est quelque chose qui est moins clair. Ce n'est pas... en fait, ça n'apparaît pas dans le texte lui-même, ça n'apparaît que dans ce commentaire A que je vous ai cité. J'ai deux hypothèses pour l'expliquer. Je pense qu'il est tout à fait probable que ces deux hypothèses se combinent. D'une part, ça peut être tout simplement une volonté littéraire d'exprimer la malfaisance des femmes d'une manière hyperbolique. Mais d'autre part, ça peut être également une référence à l'anecdote du chameau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette anecdote du chameau? C'est quelque chose qui apparaît plus loin, aussi dans le commentaire A, et que je vais vous citer, car cette petite anecdote est assez savoureuse. « Note que l'œil d'une femme prophétesse a projeté un chameau dans une fosse. Cette très mauvaise femme avait tant pensé à des mauvaises choses que certaines humeurs mauvaises ont été engendrées dans son esprit et qu'elles sont sorties par l'œil. Et un chameau qui voulait les fuir est tombé dans une fosse. » Alors, c'est vraiment un passage qui semble très étrange. Donc, en plus, on a un petit mélange entre la femme prophétesse qui a pensé à des mauvaises choses et la femme menstruée, puisque le texte, enfin, ce petit passage se situe juste après un passage qui concerne les femmes menstruées. Et il est bien question d'humeur mauvaise. Donc, on voit qu'on a ici un mélange total entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la pensée hein, de ces femmes. Mais alors, la question du chameau m'a vraiment intriguée parce que, alors je ne vous l'ai pas dit, mais l'origine géographique probable du De Secretis Mulierum est sans doute de ses commentaires, enfin en tout cas du De Secretis Mulierum, c'est la zone germanique. Les commentaires, donc peut-être zone germanique ou en tout cas nord de la France ou Angleterre, en tout cas on est dans le nord de l'Europe médiévale. Donc un lieu où les chameaux ne se promènent pas comme ça dans la campagne et à tel point qu'une femme qui passe pourrait en projeter un dans une fosse. Donc ça peut sembler assez étrange. Alors j'ai fini par retrouver l'origine de cette anecdote. Il s'agit au départ d'un petit passage dans un texte d'un auteur arabe, El-Razali, qui évoque la puissance du regard, enfin qui s'interroge sur la puissance du regard, et qui cite un proverbe qui dit « L'œil envoie l'homme dans la tombe et le chameau dans le chaudron ». Et donc on voit comment ce proverbe, ensuite traduit en latin, cité de texte en texte, s'est petit à petit modifié et que les deux parties du proverbe ont fusionné, et puis que ce qui était un simple proverbe est devenu une anecdote comme s'il s'agissait d'un fait réel, pour donner lieu à cette histoire de prophétesse et de chameau. Alors, dernier point qui m'intéresse du côté des victimes de violence, donc on a dit les hommes, les enfants, les animaux, or vous constatez qu'il y a un absent, ou plutôt des absentes dans ces victimes de violence, qui sont les femmes, puisque, alors pour ce qui est de la violence par le coït, on comprend que les femmes ne puissent pas en être victimes, mais pour ce qui est des violences par le regard toxique, on peut être étonné que les femmes, finalement, ne soient pas elles aussi des victimes potentielles de ce regard. Alors, on a une explication aussi dans le commentaire A. Donc, ce qui est très bien avec ce commentaire, c'est qu'il fonctionne toujours, c'est là qu'on voit qu'il était sans doute destiné à un usage dans l'enseignement, puisqu'il fonctionne assez souvent avec des objections qui sont anticipées, et puis une réponse à ces objections. Donc là, le commentaire nous dit « Note que, si quelqu'un demande « Si les femmes sont venimeuses, pourquoi ne s'intoxiquent-elles pas elles-mêmes » il faut dire que le poison n'agit pas sur lui-même, mais sur un autre objet à qui il est appliqué. Donc, comme les femmes sont naturellement intoxiquées, elles ne s'intoxiquent donc pas elles-mêmes. Une autre cause, c'est parce qu'elles sont habituées. Comme le dit Averroès dans le prologue du livre 3 des physiciens, certaines femmes avaient été habituées à consommer du poison, si bien que c'était pour elles une nourriture. Je fais une toute petite remarque sur le style du texte, donc c'est moi qui ai fait la traduction française du texte latin, et j'ai choisi de faire une traduction plus près du texte, et le texte notamment des commentaires est souvent un peu maladroit, donc j'ai choisi de garder cette maladresse, cette lourdeur, ce qui explique par exemple le fait qu'il y ait donc deux fois dans une même phrase, voilà, je pensais que c'était plus intéressant d'avoir une traduction plus proche du texte avec ces lourdeurs. Alors, si je reviens au contenu du texte, il y a dans ce passage une allusion claire, même si ce n'est pas explicite, à la légende de la pucelle venimeuse. Donc ça, c'est une légende qui était très répandue au Moyen-Âge, qui est introduite au Moyen-Âge dans l'histoire d'Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand on a beaucoup parlé, on a eu beaucoup de textes sur Alexandre le Grand au Moyen-Âge, avec évidemment une déformation de son histoire déjà légendaire rapportée depuis l'Antiquité. Et donc, l'anecdote de la pucelle venimeuse raconte que Alexandre le Grand, ayant vaincu un peuple, les notables de ce peuple lui proposent, comme cadeau pour montrer leur soumission, de lui offrir une jeune femme en cadeau, et une jeune fille en cadeau. Et Aristote, qui dans les versions médiévales est toujours aux côtés d'Alexandre pour le conseiller, dit à Alexandre le Grand de se méfier et avant de profiter de son cadeau, de faire coucher cette jeune fille avec un esclave. Or, l'esclave meurt sur le coup et Aristote explique à Alexandre le Grand, où il fait une enquête, enfin, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais on finit par découvrir que cette jeune fille, depuis l'enfance, a été nourrie de poison, ce qui fait que son corps est complètement empoisonné pour quiconque la toucherait peut-être, et à plus forte raison coucherait avec elle, tandis qu'elle, ayant été nourrie petit à petit de poison, selon le procédé qu'on appelle maintenant mithridatisation, en référence au roi antique Mithridate, elle s'est habituée petit à petit, et donc elle n'est pas elle-même intoxiquée. Donc c'est exactement, on voit bien que l'auteur du commentaire avait cette histoire derrière la tête, quand il dit certaines femmes, voilà, les femmes sont naturellement intoxiquées, elles ne s'intoxiquent donc pas elles-mêmes. Alors, après ces trois parties un petit peu introductives, je vais maintenant vous parler de la véritable violence du De Secretis Mulierum et avancer dans le texte, explorer le texte lui-même. Alors, j'ai choisi donc d'évoquer deux points où la réalité contredit l'annonce programmatique que je vous avais lue en ouverture. Premier point, la réalité, aucune pratique de soins gynécologiques n'est évoquée. Deuxième point, la réalité, le texte lui-même constitue une violence masculine envers les femmes. Alors, premier point, aucune pratique de soins gynécologiques n'est évoquée. Pourtant, Le secret des femmes se présente comme un ouvrage de gynécologie. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'il se présente comme un ouvrage de gynécologie? D'abord, les premiers mots du commentaire qui nous dit que le texte Contractum ad naturam secretorum mulierum se concentre sur la nature des secrets des femmes. Et ici, secret des femmes peut être pris dans le sens génital qu'il pouvait avoir au XIIIe siècle, c'est-à-dire. Et surtout précédé du mot natur, hein, natura, qui pouvait aussi avoir ce sens-là. Donc il est clair qu'on parle ici, qu'on nous annonce qu'on va parler des organes génitaux, ou en tout cas des maladies des femmes liées aux organes génitaux. Et le texte ensuite parle également de leur maladie, puisqu'il dit ipsis infirmantibus, quand elles sont malades, et évoque ensuite dare remedia, la possibilité de donner des remèdes. Donc on est bien en apparence dans quelque chose qui nous annonce qu'il va se présenter comme un ouvrage de gynécologie. Alors le titre également, Secret des femmes, peut faire penser cela, puisque au XIIIe siècle, c'est un titre qui, avant notre texte lui-même, le titre Secret des femmes, a pu être attribué à des ouvrages qui étaient des ouvrages, de véritables ouvrages de gynécologie. Alors, comment on en est arrivé là? Au départ, ces textes-là s'intitulaient plus fréquemment Maladie des femmes. Et puis, vers le milieu du XIIIe siècle, il y a une mode pour le mot secret dans le titre. Mode donc, qui est née avec un traité qui a eu beaucoup de succès, qui est le Secreta Secretorum, secret des secrets, prétendument attribué à Aristote, qui est une sorte d'encyclopédie assez générale, donc il a aussi véhiculé un certain nombre de croyances. Et donc on retrouve le terme secreta dans un certain nombre de titres. Ça fait, pourrait-on dire aujourd'hui, plus vendeur, en tout cas plus attirant. Et finalement, je constate que c'est une mode qu'on retrouve aujourd'hui, puisque si vous allez sur le catalogue en ligne d'une librairie et que vous tapez secret, vous allez trouver les secrets du bricolage, les secrets du tricot, les secrets des recettes de grand-mère, pour des choses qui n'ont rien de révélation d'une matière occulte, hein, mais qui sont simplement quelque chose destiné à attirer le lecteur. Donc c'est exactement pareil au XIIIe siècle, et Monica Green, qui a beaucoup travaillé sur la question, a vraiment montré qu'on a ce point de bascule au milieu du XIIIe siècle, où des ouvrages auparavant intitulés « Maladie des femmes » se retrouvent parfois avec exactement le même contenu, intitulé « Secret des femmes ». Alors, j'ai parlé d'ouvrages de gynécologie, ces ouvrages de gynécologie existent, ils apparaissent en Europe médiévale, surtout à partir du XIe siècle, Alors, avant le XIe siècle, on avait quelques adaptations latines d'un ouvrage d'un gynécologue grec qui s'appelle Soranos, et donc notamment une adaptation latine d'un certain Muscio. Mais bon, ces ouvrages-là circulaient assez peu. À partir du XIe siècle, on a donc l'école de Salerne. Donc Salerne, en Italie, est la première grande école de médecine d'Europe. Et à Salerne, on traduit notamment beaucoup de traités médicaux arabes. Et donc là, à Salerne, on a un certain nombre de traités de gynécologie, donc tout au long du XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, et puis ensuite, pas que à Salerne, hein, dans toute l'Europe, on en trouve. Et ces ouvrages sont des ouvrages vraiment pratiques, hein, qui décrivent ce qu'on appelait maladie des femmes, c'est-à-dire la menstruation, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Parfois aussi sont évoquées la virginité. Voilà, donc il y a tout ce qui tourne autour du fonctionnement génital du corps féminin est abordé, et de manière très pratique, puisqu'on dit comment ça fonctionne, quels sont les dysfonctionnements éventuels et quels sont les remèdes à proposer. Donc il y a des remèdes très concrets avec des recettes, des potions à ingérer, ou des cataplasmes à poser ou d'autres choses, hein. Donc on est vraiment dans des ouvrages de gynécologie. Or, on n'a rien de tout cela dans notre traité De Secretis Mulierum. On a bien, au début du traité, quelques informations gynécologiques, mais qui ne sont pas du tout dans un but curatif, qui sont plutôt dans un but instructif. Donc, certains passages du début qui expliquent le fonctionnement des menstrues, qui s'interrogent sur la fréquence, le rythme, la couleur, la quantité, etc., mais qui ne proposent aucun remède pour remédier à ce qui dysfonctionnerait. Et puis, alors on a quelques remèdes dans les chapitres de la fin, quelques remèdes, quelques informations pratiques, qui consistent à des informations pour reconnaître les signes de chasteté et de corruption d'une femme, c'est-à-dire si elle est vierge ou pas, un petit test de stérilité par l'urine pour savoir si c'est l'homme ou la femme qui est stérile, et des recettes pour concevoir un garçon. Donc vous voyez qu'on n'est pas... déjà ce sont plus des remèdes qui sont destinés aux hommes que aux femmes, et on n'est pas du tout dans une pratique de soins dans ces remèdes en question. Alors, deuxième point où je rétablis la réalité en allant vers le texte lui-même, comme une violence masculine envers les femmes, puisque on a donc deux accusations de violence dans ce texte, enfin il y en a d'autres, mais il y en a deux que j'ai choisi de traiter plus particulièrement, l'accusation de violence par le regard toxique et l'accusation de violence par la contamination sexuelle. Mais comme vous allez le voir, le texte lui-même qui présente ces violences est très violent, et on pourrait parler, comme l'avait dit une autre intervenante dans ce colloque, de violence discursive, c'est-à-dire de violence du texte. Alors, pour que vous puissiez en juger, je vais maintenant donc vous lire le premier passage du De Secretis Mulierum qui parle du regard toxique. Il faut aussi noter et imprimer soigneusement dans sa mémoire que les vieilles femmes chez qui coulent les menstrues, ou celles, comme c'est le plus souvent le cas, chez qui les menstrues sont retenues, souvent, si elles regardent des enfants reposant dans leur berceau, les intoxiquent par leur regard, comme le dit Albert dans son traité « Les menstrues des femmes ». Donc là, juste j'explique, puisque le texte est aussi, comme vous le voyez, un petit peu lourd et maladroit, il est question de deux catégories, la vieille femme réglée et la vieille femme ménopausée. Alors, pour bien comprendre ce qui est dit dans ce texte, il faut savoir que, aujourd'hui, on considère qu'une vieille femme ménopausée est une vieille femme qui n'a plus de sang menstruel en elle. Alors qu'au Moyen Âge, on pensait qu'une vieille femme ménopausée avait toujours du sang menstruel dans son corps, mais que simplement ce sang menstruel n'était plus évacué. Ce qui fait que il faut bien comprendre non pas une opposition entre la vieille femme réglée et la vieille femme ménopausée, mais au contraire une gradation. C'est-à-dire que tous les maux, les dangers, les risques, les violences qui peuvent être causés par une femme menstruée sont encore pires de la part d'une femme ménopausée, puisqu'elle a encore plus de sang menstruel concentré à l'intérieur de son corps. Alors, c'est pourquoi donc j'ai choisi de ne pas vous lire tout la totalité de ce passage qui est assez long. Donc ensuite, l'auteur fait deux paragraphes, un paragraphe sur les vieilles femmes menstruées, que je sauterai donc, et un passage sur les vieilles femmes ménopausées, que je vais vous lire. Donc j'ai choisi de vous lire celui-là, puisque, comme je vous ai dit, il y a gradation. Donc là, on aboutit vraiment à ce qu'on pourrait appeler le bouquet final. Mais la cause pour laquelle les vieilles femmes, chez qui ne coulent plus les menstrues, infectent souvent les enfants, est la suivante. C'est parce que la rétention des menstrues apporte et provoque une abondance d'humeur mauvaise, visqueuse et corrompue. Et parce que ces femmes sont vieilles, il leur manque la chaleur naturelle pour mûrir et digérer cette matière. Et c'est pourquoi ces femmes, surtout si elles sont pauvres, parce qu'elles se nourrissent de nourriture grossière qui apporte l'infection à cette matière, sont aussi cause de la mort d'enfants, de la même manière que les autres infectent à travers l'air infecté, et elles infectent plus souvent que les autres à qui coulent encore les menstrues, parce que ce flux favorise la purgation de leur nature. Alors, comme j'avais dit en ouverture, enfin dans le contexte, le De Secretis Mulierum, c'est vraiment le point de cristallisation de croyances très anciennes et de textes multiples. Donc là, pour comprendre ce texte, il faut vraiment remonter le temps et voir qu'est-ce qui est à l'origine. Alors, à l'origine de tout cela, il y a alors déjà deux choses. D'abord, quelque chose dont on n'a pas de traces écrites, mais dont on a des traces dans le folklore, aussi bien de l'Antiquité que du Moyen-Âge, que même d'aujourd'hui, qui est une croyance populaire que les femmes menstruées auraient un regard toxique. Et puis, la plus ancienne source écrite que l'on ait de cette croyance, c'est un texte d'Aristote. Et là, c'est vraiment important parce que Aristote ne présente pas cela comme une croyance populaire, il le présente comme un fait réel, et surtout, il y apporte une démonstration scientifique. Que je n'aurai pas le temps de vous lire parce que ce serait trop long, parce que cette démonstration est très longue, mais c'est une démonstration qui est très impressionnante parce qu'il explique d'une manière très précise et très rationnelle, en apparence, mais enfin oui, véritablement rationnelle, hein, sachant que Aristote n'avait pas les connaissances que nous avons aujourd'hui, il explique comment les particules du sang menstruel suivent donc une veine, donc on pensait à cette époque-là qu'il y avait une veine qui partait de l'utérus et qui ensuite remontait vers le haut du corps, donc ça suit cette veine, ça arrive au niveau des yeux, et c'est là que ces petites particules peuvent sortir. Pourquoi ? Là aussi, il y a une explication très logique, parce que la chair des yeux est particulièrement poreuse et humide, donc c'est plus facile de sortir par là. Et ensuite, ces petites particules sont transportées à travers l'air et vont se poser plus facilement sur une surface particulièrement lisse. Parce que donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce texte d'Aristote, donc, qui figure dans un petit traité qui s'appelle « Des songes », ce texte d'Aristote nous dit que le regard d'une femme menstruée sur un miroir peut tacher ce miroir. Alors pourquoi le miroir ? Donc, comme il le dit, parce qu'une surface particulièrement lisse est plus particulièrement réceptive à ces petites particules de sang menstruel. Alors, pour bien comprendre la logique de cette croyance, il faut se rappeler que jusqu'au XVIe siècle, tous les miroirs qui étaient utilisés n'étaient pas, comme nous le connaissons aujourd'hui, des miroirs en verre, mais des miroirs en métal. Hein. On peut en voir encore de nombreux exemplaires antiques dans les musées. Et donc, ces miroirs en métal, il peut très facilement leur arriver des petites taches de rouille. Donc, Pour vous expliquer un peu que cette croyance finalement n'est pas absurde pour des personnes qui n'avaient pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, je me dis que peut-être cette croyance est même née des femmes elles-mêmes, parce que j'imagine tout à fait, je me regarde dans un miroir, ah, je vois qu'il y a une petite tache de rouille, bon, cette petite tache, il se trouve qu'elle a la couleur du sang menstruel, ah bah justement, ça tombe mal, j'avais mes règles aujourd'hui, bon, c'est peut-être ça, ceci a causé cela, et puis après, bah, on se dit, oui, finalement, à chaque fois, ça correspond à peu près à la période, bon, et on peut tout à fait comprendre comment cette croyance a pu naître. Mais donc, voilà, ce qui est très important avec le texte d'Aristote, c'est qu'il en donne une explication scientifique, et donc cette explication va être reprise par les auteurs du Moyen-Âge, et notamment par des auteurs qui aussi essaient de donner des explications scientifiques aux phénomènes naturels, comme Albert le Grand, ou son disciple Thomas d'Aquin. Alors Albert le Grand, au milieu du XIIIe siècle, reprend cette idée qu'une femme menstruée peut tacher un miroir, et alors il l'évoque dans un passage où il se pose la question de savoir si le regard peut être actif, et pas seulement passif. Et donc il cite deux exemples, l'exemple du regard d'une femme menstruée sur un miroir, et il cite explicitement Aristote, et le deuxième exemple, c'est le regard du basilic, donc ce serpent dragon légendaire, mais à l'époque d'Albert le Grand, on pensait que c'était un animal réel, et comme vous le savez, cet animal est réputé pour pétrifier par son regard la personne qu'il regarde. Hein, on retrouve ça encore récemment dans l'histoire d'Harry Potter. Donc voilà, les deux sont cités en exemple côte à côte. Ce qui est intéressant, c'est que ensuite, on le verra justement dans notre texte De Secretis Mulierum, même si c'est pas dans un passage que j'ai choisi de vous citer, les deux, un peu comme dans le petit proverbe dont je vous avais parlé tout à l'heure avec le chameau et la femme. Là, les deux idées vont fusionner, hein, et on dira que une femme menstruée a un regard venimeux, et que ce regard venimeux est comme le regard du basilic. Hein. Donc finalement, les deux idées vont fusionner entre elles. Alors, un petit peu après Albert le Grand, à la fin du XIIIe siècle, on a son disciple Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est sans doute à peu près contemporain de notre De Secretis Mulierum, mais je pense que notre De Secretis Mulierum est un petit peu postérieur à Thomas d'Aquin, parce que vous allez voir qu'on a vraiment l'impression que l'auteur du De Secretis Mulierum a lu le texte de Thomas d'Aquin. Mais vraiment, on devait être à quelques années ou à peine une dizaine d'années après. Alors, Thomas d'Aquin, comme son maître Albert le Grand, parle du rôle actif du regard, se questionne sur le rôle actif du regard, et lui aussi cite deux exemples. Donc le premier exemple, c'est également l'exemple du miroir, et il se réfère aussi explicitement à Aristote. Le deuxième exemple, c'est le regard dangereux des vieilles femmes. Alors là, c'est quelque chose qui, au départ, n'a rien à voir avec une histoire de menstrues ou de ménopause. C'est quelque chose qui est lié à la magie et à la sorcellerie, et ça, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité. On a des textes de l'Antiquité grecque ou romaine qui parlent de vieilles femmes sorcières qui sont dangereuses pour les enfants et qui sont même appelées des striges, qui est un mot d'origine grecque que l'on retrouve dans des textes du Moyen-Âge, justement, qui datent de quelques années avant Thomas d'Aquin. Hein. J'ai trouvé dans un texte d'un inquisiteur Étienne de Bourbon, vers 1250, il cite une anecdote d'une histoire qui s'est passée en Bretagne, où une jeune mère a accusé sa vieille voisine d'avoir tué ou tenté de tuer plusieurs de ses petits-enfants, de ses petits-bébés, en rentrant dans la nuit dans la maison, à cheval sur un loup, évidemment, et qui a sucé le sang de ses bébés. Et donc Étienne de Bourbon nous dit que le lendemain, on a délogé la vieille femme de chez elle, et puis qu'heureusement, le prêtre local l'a exorcisée, et qu'évidemment, elle était possédée du démon. Donc on voit que ce sont des idées qui circulent à cette époque-là, Thomas d'Aquin est lui le premier à mettre côte à côte l'exemple de la femme menstruée du miroir et l'exemple de la vieille sorcière qui s'en prend aux petits-enfants. Mais là encore, il les met côte à côte, et c'est notre texte qui va opérer la fusion. Alors, deuxième accusation de violence, c'est l'accusation de violence par la contamination sexuelle. Donc là aussi, je vous lis le texte traduit en français. C'est pourquoi, lorsque la lune augmente l'humidité dans tous les organes, entailler un organe avec un fer est la même chose que blesser gravement et ajouter de l'humidité à l'humidité et par conséquent multiplier la nuisance. Alors, juste j'explique dans le style un petit peu ampoulé de ce texte, ce qu'il veut dire, c'est qu'à la pleine lune, les blessures sont moins bien cicatrisées. Je poursuis la lecture. Et sachez, mes camarades, que, bien que certaines femmes cachent la cause de ce phénomène, et que d'autres, comme elle est cachée, l'ignorent, certaines en connaissent les faits, et plusieurs maux sont accomplis de ce fait lorsqu'un homme est en coït avec elle. Il arrive quelquefois à des hommes une lésion grande et grave, venue d'une infection du membre viril par elle, et par l'apposition d'un fer, dans la mesure où certaines prostituées sont expertes en cela et dans d'autres choses semblables. Et s'il était permis de le dire ici, j'écrirais certaines choses, mais parce que je crains mon propre créateur, je ne révélerai rien, ni des choses cachées jusqu'ici, ni d'autres du même type. Alors, je vous laisse apprécier l'habileté de la dernière phrase, hein, qui reprend tout à fait le programme qui était annoncé dans le titre même, « Les secrets des femmes hein. ». L'auteur nous dit qu'il ne va pas tout nous dire. Ici, on a quelque chose d'un petit peu ambigu dans le texte, puisqu'il nous parle de femmes qui blesseraient un homme à l'aide d'un fer et qui blesserait son membre viril. Donc, quand elles sont en coït avec elle, donc on imagine, même si ce n'est pas dit explicitement, que le fer, à ce moment-là, se trouve dans le vagin. Bon, ça, on y reviendra après. Mais pourquoi on parle d'infection du membre viril, voilà, et pourquoi essayer de blesser le membre viril avec ce fer ? Donc ça reste mystérieux pour l'instant dans ce texte, mais ça remonte à une croyance qui là aussi est très ancienne, qui est la croyance qu'un homme peut être infecté par le sang menstruel d'une femme au moment où il a une relation sexuelle avec elle. Alors là aussi, il faut vraiment remonter des fils très lointains pour comprendre cette croyance. Alors cette fois-ci, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on n'a rien dans l'antiquité gréco-romaine qui atteste cette croyance. Au contraire, on a des textes de médecins qui parfois proposent pour certains problèmes spécifiques de santé des femmes que justement elles aient des relations sexuelles en période de menstrue puisque ça peut améliorer certaines choses. Alors cela dit, il est probable là aussi qu'on a des croyances populaires qui n'ont pas laissé de traces écrites. On a quelque chose, alors qui n'est pas exactement cela, mais qui s'en rapproche, qui est dans l'Ancien Testament, le livre du Lévitique, qui énonce un certain nombre d'interdits rituels. Il déclare qu'il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec une femme menstruée, mais c'est vraiment le summum d'une liste d'interdits qui touche la femme menstruée, puisque il est également interdit de on se rend impur en touchant une femme menstruée ou en touchant un objet qui a été touché par une femme menstruée. Et donc le fait d'avoir une relation sexuelle avec une femme menstruée est considéré comme tellement grave que les contrevenants, c'est-à-dire la femme et l'homme qui auraient couché avec elle, seront exclus de la communauté, ce qui est une sentence qui est équivalente à la mort. Alors, si on regarde du côté du christianisme, on voit que pour ce point-là et pour d'autres points d'ailleurs, le christianisme essaie de se démarquer de ces interdits rituels de l'Ancien Testament. Et en même temps, il y a des choses qui continuent dans les pratiques populaires, donc c'est vraiment très intéressant, donc d'autres ont étudié cela, hein, de voir tout au long du Moyen-Âge, selon les lieux, les époques, les milieux sociaux, la tension qu'il y a entre, donc ça peut porter sur des pratiques sexuelles, mais aussi sur des pratiques alimentaires, hein. On voit qu'il y a vraiment une tension entre des respects des interdits de l'Ancien Testament qui sont plutôt le fait de laïcs qui ont l'impression que y a ces interdits qui sont comme ancrés dans des croyances, tandis que les religieux vont plutôt essayer de s'en démarquer pour montrer que le christianisme considère toutes ces croyances comme l'ancienne loi et qu'il y a d'autres lois. Alors, donc, il n'y a pas vraiment d'interdit rituel concernant les relations sexuelles avec une femme menstruée. Malgré tout, cela figure dans les pénitentiels. Donc, les pénitentiels sont des ouvrages qui étaient destinés aux confesseurs pour leur indiquer quelle pénitence infliger en fonction de tel ou tel péché. Donc les pénitentiels mentionnent le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme menstruée, mais on est très loin de l'exclusion de la communauté prônée par le Lévitique. Il y a une simple pénitence à appliquer dans ce cas. Alors c'est pareil, on voit que selon les époques, selon les auteurs, les pénitences ne sont pas toujours aussi graves, puisque cela peut aller de quelques jours à quelques années de pénitence. Mais finalement, ce qui apparaît dans le christianisme, plus qu'un interdit, c'est une évocation des risques sanitaires. Et là, le premier à l'évoquer, enfin le premier dont on a une trace écrite, c'est Saint Jérôme, donc on est au IVe siècle après Jésus-Christ, même si effectivement Saint Jérôme sans doute reprend des croyances populaires plus anciennes, mais c'est la première trace écrite. Et lui, il évoque un risque sanitaire pour l'enfant qui serait né de cette relation. Et il nous dit que cet enfant risquerait d'être boiteux ou épileptique ou aveugle ou encore roux, sachant que roux est la couleur à la fois du diable et la couleur du sang menstruel. Donc cette déclaration de Saint Jérôme va être abondamment reprise par des auteurs alors, presque contemporains, comme Saint Augustin, puis des auteurs médiévaux, et s'y ajoute assez tôt non seulement le risque pour l'enfant, mais le risque pour l'homme lui-même, et notamment le risque de contracter la lèpre. Donc là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire hein, sur le lien entre lèpre et sang menstruel. C'est un très vaste champ, donc je ne m'y attarderai pas. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette croyance, qui, comme je viens de vous le dire, est née dans des milieux religieux, et ce n'était absolument pas le cas, jamais aucun médecin dans l'Antiquité, au début du Moyen Âge, n'a évoqué ce risque sanitaire, et bien petit à petit, on voit que cette croyance contamine, c'est le cas de le dire, le discours médical, et vers la fin du Moyen Âge, on a des médecins qui évoquent ce risque sanitaire exactement dans les mêmes termes que les auteurs religieux. Donc c'est assez frappant de voir qu'ils n'invoquent pas une expérience ou des choses qu'ils auraient vues, mais sans vraiment le dire, ils se réfèrent à des textes écrits par des personnes qui n'ont rien à voir avec la médecine. Alors, dans le texte que je vous ai lu, il n'y a pas vraiment d'allusion explicite à l'une de ces croyances, puisque c'est un autre type de contamination qui apparaît, qui n'est jamais évoqué avant dans aucun texte, qui est une sorte de transfusion sanguine, avec ce fer, qui blesserait la verge de l'homme lors d'une relation sexuelle. Mais le texte n'est pas très clair et l'auteur assume de ne pas en dire trop avec cette dernière phrase, hein, que je reprends. S'il était permis de le dire ici, j'écrirai certaines choses, mais parce que je crains mon propre créateur, je ne révélerai rien, ni des choses cachées jusqu'ici, ni d'autres du même type. Si on n'avait que ça, on serait démunis, mais comme je vous ai dit, nous bénéficions des commentaires. Et évidemment, l'intérêt des commentaires, c'est de commenter tout ce qu'ils peuvent. Et donc, alors cette fois-ci, ce n'est pas le commentaire A dont je vous ai déjà lu des extraits, c'est le commentaire B qui nous donne une explication très précise de cette histoire de contamination à l'aide d'un fer. Je vous lis le texte. Note aussi que certaines très mauvaises femmes sont instruites à propos du dernier quart de la lune, et elles savent très finement blesser les hommes qui pratiquent le coït avec elles. Et quand les femmes subissent leurs menstrues, si alors des hommes pratiquent le coït avec elles, elles ont parfois l'habitude, soit par vengeance, soit pour une autre méchanceté, de blesser la verge virile. Et alors, la menstrue qui se trouve dans la vulve de la femme entre dans cette blessure et l'infecte de son venin. Car la verge est un organe poreux et fin, et c'est pourquoi cette matière est rapidement absorbée par elle. et parce que toutes les veines convergent à cet endroit, cette matière se répand dans tout le corps. Donc vous voyez que là, on a un texte beaucoup plus précis que le texte qu'il commente, avec vraiment toutes les étapes de la technique qui sont précisément explicitées. Hein, la menstrue qui se trouve dans la vulve entre dans la blessure à l'aide du fer qui blesse la verge virile. Donc c'est vraiment, il est vraiment question ici d'une transfusion sanguine. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a, la croyance dont je viens de vous parler, de cette contamination par le sang menstruel. Mais ici, on ajoute le fait que c'est pas juste le fait qu'une femme couche, une femme qui a ses menstrues couche avec un homme, mais qu'en plus, elle va vraiment utiliser un fer pour inciser le membre viril et pour être sûre que le sang passe directement, son propre sang toxique passe directement dans le sang de l'homme. Alors, à ce stade, on pourrait avoir une objection, parce que ici, il est question d'intoxication, mais qu'en est-il de la femme ? Alors, vous vous souvenez, au début de ma communication, je vous avais montré ce passage de l'autre commentaire, le commentaire A, qui expliquait le fait que la femme ne soit pas intoxiquée par son habitude du poison qui était dans son corps. Mais ici, on a quelque chose de plus, puisqu'il ne s'agit pas que d'une intoxication, mais aussi d'une blessure mécanique avec une lame de fer. Et là, je vois vraiment pas comment cette pauvre femme, si elle s'introduit la lame de fer dans le vagin, comment se fait-il qu'elle ne blesserait que la verge virile ? Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est formidable avec le commentaire, c'est qu'on a toujours une anticipation des objections. Donc, je poursuis la lecture. Mais quelqu'un pourrait dire « Pourquoi la femme ne se blesse-t-elle pas elle-même ? » Je dis que c'est parce que la vulve n'est pas aussi poreuse que la verge. Ou cela peut s'expliquer autrement et mieux, parce que avant de placer ces substances corrosives, elles prennent de l'huile de rose et elles en enduisent leurs membres. Et ainsi, elles ne sont pas blessées. Donc deux explications que je vous laisse apprécier. Hein. La première, c'est que tandis que la verge a cette peau si fine, si poreuse, la vulve a une peau qu'on imagine bien coriace et bien parcheminée, hein, qui donc apparemment pourrait résister à la lame bien aiguisée d'un fer. Et puis, parce qu'elle prévoit avant, et avec de l'huile de rose, elles arrivent à prévenir toute blessure. Alors bon, sans doute l'huile de rose pour cicatriser après coup, mais j'ai du mal à imaginer que l'huile de rose soit aussi efficace. En tout cas, je ne vous recommande pas de répéter l'expérience à la maison. Alors, dernier point sur lequel je voulais m'attarder dans cette partie sur le texte, et plus précisément les textes, c'est la question... pour reprendre un terme qui est utilisé dans le langage juridique actuel, on se pose la question de savoir s'il y a eu homicide volontaire ou homicide involontaire. Et on est en général plus clément quand il s'agit d'homicide involontaire. Et donc là, par rapport à nos textes, la question serait de savoir s'il y a eu une intentionnalité de la violence de ces femmes, d'après les différents textes. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a finalement une évolution entre le texte original latin, qui, comme je l'ai dit, date probablement de la fin du XIIIe siècle, d'une part, et d'autre part, les commentaires latins, qui datent, eux, plutôt du début du XIVe siècle, ainsi d'ailleurs que les versions françaises, qui datent aussi du début du XIVe siècle. Alors, dans le De Secretis Mulierum, il n'y avait pas vraiment d'intentionnalité des violences de la femme, du moins pas explicitement. Sans aller jusqu'à l'objectivité, l'intentionnalité n'est pas vraiment retenue contre les femmes. Donc, alors, il y avait juste, donc si je reprends le passage, hein, « Sachez, mes chers camarades, que bien que certaines femmes cache la cause de ce phénomène, donc il y a bien une intentionnalité avec caché, mais qui est aussitôt tempérée par d'autres femmes qui ignorent. Certaines en connaissent l'effet, bon, on avait, voilà, l'effet, mais là aussi c'était certaines. et plusieurs mots sont accomplis, donc sont accomplis, c'est du passif, on ne dit pas qui les a accomplis. Et puis un petit peu plus loin, on dit parce que ces femmes sont vieilles, il leur manque la chaleur naturelle, donc il leur manque, là aussi on a une expression impersonnelle, hein, en latin, deficit ineis. Et puis ces femmes sont cause de la mort d'enfants, mais on dit qu'elles sont cause de, on ne dit pas qu'elles l'ont voulu. Donc dans le texte, on a vraiment, au niveau du vocabulaire, bon là j'ai repris les passages de traduction française, hein, mais c'est la même chose si on regarde le texte latin. Voilà, le texte reste relativement modéré voilà, dit que des violences sont accomplies, mais sans vraiment accuser les femmes de le faire volontairement. Or, ça va être complètement différent dans les commentaires. Donc là, si je reprends un des passages que je vous ai lu du commentaire B, il dit « certaines très mauvaises femmes sont instruites », donc non seulement elles sont instruites, mais il précise qu'elles sont mauvaise et même très mauvaise, hein, en latin pessimae, c'est le superlatif, donc sont instruites à propos du dernier quart de la lune, et elles savent très finement blesser les hommes. Multum subtiliter sciunt, donc là aussi on nous dit qu'elles savent, mais qu'en plus elles le savent très finement. Et puis un petit peu plus loin, quand il donne les raisons de cet acte, notre commentateur dit qu'elles le font soit par vengeance, soit pour une autre méchanceté. Et puis si je regarde un texte contemporain donc, qui est l'une des versions françaises, Le secret des femmes nous disait « Et à grand péril d'avoir compagnie avec de telles vieilles, par spécial quand elles sont courroucées. » Donc il y a grand danger d'avoir de compagnie avec de telles vieilles femmes, spécialement quand elles sont courroucées. C'était à propos du regard toxique, hein, donc ce regard toxique était signalé comme étant plus dangereux quand la vieille femme était courroucée. Donc là aussi, il y a une idée d'intentionnalité, de volonté de nuire. Alors, c'est cette évolution historique qui va m'intéresser maintenant pour le tout dernier point qui est un peu une non-conclusion, où je vais maintenant m'interroger sur la réception de ce texte et sur les conséquences qu'il a pu avoir. Donc évidemment, ce texte dont je vous ai montré au début l'immense succès n'est pas un événement anodin dans l'histoire, et il a eu beaucoup de lecteurs, et évidemment tous ces lecteurs font partie de l'histoire, et notamment de l'histoire des femmes et de la misogynie, puisque on voit aussi par d'autres aspects que entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVe siècle, on a vraiment dans l'Europe médiévale une montée de la misogynie, je pense, c'est mon hypothèse, et vous allez voir qu'on a certains points qui peuvent l'étayer, que à lui seul, ce texte-là a probablement joué un rôle important dans ce phénomène. Alors, j'ai choisi, donc on pourrait évidemment, ça pourrait faire presque l'objet d'une thèse en soi, d'étudier la réception du De Secretis Mulierum. J'ai choisi juste de regarder trois aspects de cette réception. Un témoignage d'une lectrice, Christine de Pisan, la reprise implicite de ce texte dans un ouvrage d'inquisiteur destiné à la chasse aux sorcières, et la reprise de ce texte dans un ouvrage destiné au grand public sur la magie, qui va ensuite être lu longuement au cours des siècles. Alors, Christine de Pisan, c'est une femme écrivaine du début du XVe siècle, et dans un de ses plus célèbres ouvrages, La Cité des Dames, écrit en 1405, elle imagine un dialogue entre elle-même et Dame Raison, qui est donc la raison personnifiée. Et elle dit à la raison qu'elle a vu un petit livre qui se nomme « Du secret des femmes ». Et donc là, la discussion va s'engager autour de ce livre. Et Christine de Pisan est vraiment absolument indignée de ce livre. Elle dit que c'est un traité tout de mensonges, Et alors, ce sont les mots, n'indique pas ça comme le disant elle-même, mais comme cela étant dit par son personnage Raison, hein, Dame Raison. Dame Raison lui dit que c'est un traité tout de mensonges et que ce sont des bourdes et que les femmes peuvent clairement, par épreuve, c'est-à-dire par expérience, savoir qu'aucune chose qu'ils touchent ne sont ni vraies, un spur bourde, que toutes les choses qui sont abordées dans ce traité ne sont pas vraies, mais que ce sont de pure bourde, et elle reprend ensuite encore une fois le mot de mensonge, de son de vrai mensonge. Donc Christine de Pizan avait évidemment parfaitement conscience de la fausseté de ce texte, et ce petit témoignage nous laisse à penser que, alors déjà ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage montre qu'au moins une femme a pu lire ce texte, qui était a priori destiné aux hommes, peut-être d'autres femmes, du coup, peut-on supposer, mais aussi ce texte nous montre que ce texte a pu être très mal, le traité des secrets d'Ismaïlum a pu être très mal reçu par certains lecteurs, et en particulier certaines lectrices, s'il y en a eu, et il y en a certainement eu d'autres que Christine. Ce qui m'intéresse aussi, c'est également le fait qu'elle pressent le danger justement de cette image des femmes véhiculée par ce traité, puisque quand elle présente ce traité, elle dit ce traité qui dit de la composition de leur corps naturel moult de grands défauts, donc beaucoup de grands défauts, et un petit peu plus loin, elle dit que ce texte qui a parlé de l'impotence et de la faiblesse qui est cause de former le corps féminin, et du fait que nature est comme toute honteuse d'avoir formé un tel corps comme une chose imparfaite. Donc elle cible bien l'image du corps féminin qui est véhiculée par ce texte, et on sent qu'elle est un petit peu inquiète de l'influence que cela pourrait avoir. Donc c'est effectivement ce qu'on voit un siècle, enfin un petit peu moins d'un siècle après Christine de Pizan, qui écrivait en 1405, et là je suis en 1486, et paraît un ouvrage qui sera lui aussi un best-seller, et d'autant plus qu'il paraît au tout début de l'imprimerie, et qu'il va être imprimé en de très nombreux exemplaires, c'est le Malleus Maleficarum, en français Marteau des sorcières, qui est écrit par deux inquisiteurs allemands, Henri Nestitoris et Jacques Sprenger, et il s'agit d'un manuel destiné aux inquisiteurs et qui leur explique comment reconnaître des sorcières et comment les combattre, les arrêter, les interroger dans les procès. Donc il est un tout petit peu question des sorciers hommes dans cet ouvrage, mais essentiellement des femmes, et de toute façon le titre annonce bien la couleur, hein, puisqu'il s'agit de Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, et non pas Maleficorum, des sorciers. Donc dans un passage de ce traité, les auteurs évoquent le regard venimeux des vieilles femmes. Alors, je vous lis le texte dans la traduction française qui en a été faite par Amandanet, aux éditions Jérôme Milon. Ainsi donc, quand une âme est fortement inclinée à la malice, comme cela arrive davantage chez les vieilles, le regard de cette personne devient venimeux et nuisible. Surtout pour les enfants qui ont un corps délicat et plus réceptif à l'égard de toute impression. Il est possible aussi que par la permission de Dieu ou à la suite d'un pacte, la malignité des démons avec qui les vieilles magiciennes ont une alliance y coopère. Alors en réalité, ce texte, donc en latin dans le texte, c'est la reprise exacte mot pour mot du texte de Thomas d'Aquin, que je ne vous avais pas cité mais que j'avais évoqué tout à l'heure. Et je vous avais dit hein, qu'il évoque le danger du regard d'une femme menstruée sur un miroir et le danger du regard d'une vieille femme sur les enfants. Donc là, comme je l'avais dit, il n'est pas question de ménopause, et ça, ce sera fait avec notre De Secretis Mulierum. Alors vous allez me dire, je parle de la réception du De Secretis Mulierum, pourtant là, les auteurs du Marteau des sorcières citent un passage de Thomas d'Aquin et pas du De Secretis Mulierum. Cependant, c'est une hypothèse de ma part, je pense que le De Secretis Mulierum a joué un rôle dans le fait que Sprenger et Nestitoris citent ce passage, parce que le Desecretis Mulierum était beaucoup plus connu que Thomas d'Aquin, beaucoup plus lu et avait beaucoup plus d'influence. Et il n'est pas impossible, à mon avis, que cette idée du regard toxique des vieilles femmes leur soit venue ou soit venue à leur lecteur d'abord par le Desecretis Mulierum et que ensuite, bon, comme eux, ce sont des inquisiteurs, évidemment, ça faisait beaucoup plus sérieux de citer Thomas d'Aquin. Mais je pense que le Desecretis Mulierum a joué un rôle du fait des croyances qu'il a véhiculées pendant tous ces 14e et 15e siècles. Sur donc une influence sur ce texte du marteau des sorcières. La dernière conséquence que je voulais aborder, c'est le fait que le texte latin du De Secretis Mulierum a été repris avec toutes sortes d'autres textes d'origine diverse dans des ouvrages qui ont eu beaucoup de succès d'abord dans les débuts de l'imprimerie, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc ces ouvrages peuvent porter différents titres, mais sont tous attribués à Albert le Grand. Donc on a pu les appeler le Grand Albert, le Petit Albert, le Grand et Petit Albert, les Admirables Secrets de Maître Albert, les Secrets des Hommes et des Femmes composés par le Grand Albert, traduits du latin en français. Bon. Tous ces textes-là existent donc dans une quantité énorme de versions. Ils reprennent des passages du De Secretis Mulierum et d'autres passages attribués à Albert le Grand, ou parfois, pour certains, écrits réellement par Albert le Grand. Il est question de magie, d'astrologie, d'alchimie. Enfin, c'est vraiment un patchwork de textes et de croyances. Ce qui est intéressant, c'est que ces textes-là, donc j'ai dit surtout une grande diffusion au XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi encore XIXe et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si vous allez dans les rayonnages d'une librairie au rayon ésotérisme, vous allez trouver le livre des secrets de Maître Albert ou le livre de magie de Maître Albert, etc. Et parfois, selon l'honnêteté des préfaciers, on va vous expliquer que c'est bien Albert le Grand qui a écrit cet ouvrage. Donc, et c'est des livres qui ne sont pas achetés par des savants. C'est des livres encore aujourd'hui hein, qui sont achetés et lus vraiment par des gens suffisamment éduqués pour savoir lire, hein, si je parle des périodes antérieures, mais malgré tout, des lecteurs entre guillemets d'origine populaire, en tout cas pas des lettrés. Et alors, donc j'ai choisi de vous citer un passage, alors là c'est dans un ouvrage dont le titre est « Les secrets des hommes et des femmes composés par le grand Albert » traduit du latin en français, que j'ai trouvé numérisé sur internet, sans date, donc il date du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais je ne peux pas en dire plus. Et donc le début du texte dit ceci: « Celui ami à qui il écrit, estuait un prestre, qui le supplia à lui écrire le livre des secrets des femmes, pour cause que les femmes sont venimeuses durant le temps de leurs fleurs, et si dangereuses qu'elles empoisonnent les bestes par leurs regards, et les petits enfants est berceaux, souillent et tachent les miroirs, et aucune fouet ceux qui gisent avec elles par couple charnel sont ladres et lépreux. » Donc les fleurs ici est le terme pour désigner les menstrues. Ce texte-là, c'est mot pour mot la traduction française, non pas du De Secretis Mulierum, mais du commentaire du De Secretis Mulierum que je vous avais cité en ouverture de cette conférence. Ce n'est pas du tout anodin, puisque comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai démontré, les commentaires sont beaucoup plus caricaturaux que le texte qui déjà l'est pas mal, et c'est ces commentaires-là qui se retrouvent dans ces versions françaises plus tardives comme attribuées à Albert le Grand. Et c'est donc ce ramassis de croyances hein, qui est véhiculé encore jusqu'à nos jours dans les ouvrages qui s'intitulent « Les secrets du maître Albert ». En conclusion, dans le cadre d'une réflexion sur les violences de genre et les pratiques de soins au Moyen-Âge, le corpus constitué par le De Secretis Mulierum, ses commentaires et ses traductions, se révèle un carrefour incontournable. Point de rencontre de diverses traditions populaires et savantes sur le corps féminin, il a ensuite contribué à les répandre dans les derniers siècles du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Or, ces idées, qui présente les violences corporelles, d'abord involontaires, puis volontaires, des femmes envers les hommes, sont elles-mêmes porteuses d'une double violence masculine, à la fois de la part des auteurs et de la part des lecteurs, envers les femmes. D'une part, la violence textuelle immédiate pour celles qui liraient et entendraient parler de ces textes. On a vu le témoignage de Christine de Pizan à ce sujet, et on peut dire que même encore aujourd'hui, une lectrice femme peut se sentir blessée par la lecture de ce texte. D'autre part, la violence réelle exercée par ceux qui, ajoutant foi aux affirmations les plus extrêmes de ces textes, se sont entre autres appuyés dessus pour justifier des préjugés sexistes sur le corps des femmes jusqu'au XXIe siècle, dans l'intimité même des familles et des couples, et là je fais allusion à ce succès des ouvrages de type Secret du Grand Albert, mais aussi pour justifier des persécutions, et là je fais allusion au Malleus Maleficarum, mais qui a eu des conséquences terribles, donc des persécutions qui ont mené à la mort des dizaines de milliers de femmes au XVe, XVIe, XVIIe siècle, parmi lesquelles de nombreuses femmes, vieilles et pauvres.